Invitation au 19, épisode 5. École d'été, la pratique du sabotage. Invitation au 19 est un podcast produit par Du Radio en partenariat avec le 19 Crac, Centre régional d'art contemporain de Montbéliard. Cet épisode a été réalisé les 18 et 19 juillet 2024 à l'occasion de l'école d'été. Deux journées de rencontres et d'ateliers dédiés aux artistes professionnels de l'art autour de la pratique du sabotage. Le 19 Crac remercie Mathilde Chénin, artiste et cofondatrice du projet Bermuda, Camille Sino, artiste et membre du collectif Assemble, et Pierre Lamar, historien, pour leurs interventions.
Aujourd'hui, on pourrait penser que je vais être un peu à côté de ces pratiques de sabotage, puisque, comme le titre de cet exposé l'indique, je vais plutôt parler donc, d'autoconstruction. Et la première chose qu'on pourrait se demander, c'est quels sont les liens en fait, entre sabotage et autoconstruction qui ont l'air antithétiques en tout point, hein, faire et défaire, démanteler, construire. Voilà. Mais en dépit de ce qui semble à première vue les opposer, je vais essayer de montrer comment finalement ces deux pratiques, sabotage et autoconstruction, entretiennent au contraire des terrains communs et un même pouvoir collectivement émancipateur. Pour commencer, j'avais à cœur de peut-être définir un tout petit peu plus qu'est-ce que je vais entendre ici par ces formes d'autoconstruction. La définition un peu première serait des manières de construire dont des personnes ou des collectifs ont de construire sans ou avec presque peu d'aide de professionnels. Il me semble qu'il se passe des choses intéressantes dès lors que des personnes s'attellent à se réapproprier et à chercher à construire leur maison, leur lieu de travail, etc. Donc quelque chose qui se joue en rapport à cette relation à la matérialité et à se faire ensemble. Le fait de se plonger dans cette fabrication collective va à la fois ouvrir des manières de fabriquer le commun qui sont très singulières, et on va essayer de les qualifier, et aussi ouvre sur une relation aux autres et aux êtres, ou à la matière, ou à la matérialité, qui est aussi tout à fait particulière.
En fait, cette expo, d'une certaine manière, retranscrit notre première approche et insertion dans le territoire de Montbéliard, avec une première recherche en fait, autour de la question des ressources et de la technologie, et en quoi la technique et la technologie peuvent être ou émancipatrices ou aliénantes. En fait, les ateliers s'insèrent dans ce contexte-là, avec dans un premier mouvement en fait, d'avoir installé un ensemble de mobilier au sein du CRAC pour le rendre accessible et utilisable par plus que nous, en fait, par différents ateliers, que ce soit scolaires ou autres. Et ensuite, nous, les ateliers qu'on propose, c'est toujours autour de la question de la machine et de la main. Donc, c'est que des ateliers manuels qui prennent du temps, sans électricité, avec l'essentiel de l'énergie étant l'énergie de chacun. Donc, on a des tailles de cuillères de bois, potentiellement, on va peut-être tourner avec un tour à bois qui a été fait activé par le pied et de la broderie, donc l'utilisation de la vercelure et donc de bois local aussi. Et l'idée étant de confectionner tout un tas d'ustensiles qu'on pourra utiliser lors de la fermeture pour un repas commun et de discuter un peu de l'avenir de Montbéliard.
Alors après, en gros, il faut juste choisir ce que vous voulez faire, si vous faites la broderie ou des cuillères. Vous pouvez faire les deux. Il faut compter une quarantaine de minutes au moins pour une cuillère, quoi, voire un peu plus. Alors la broderie, en fonction des techniques, ça on va travailler avec Julie qui s'y connaît un peu mieux que moi en broderie.
Si vous avez déjà une idée en tête pour commencer vraiment un motif, ça sera pour broder après. Alors ça peut dépasser, le motif pourra dépasser, il n'y a pas de souci. Mais du coup vous pouvez prendre un crayon, essayer de tracer déjà.
Très bien. Bah, du coup, on part d'un bloc. Alors, on peut ou bien partir d'un bloc comme ça, ou bien carrément partir d'un bloc qu'on peut fendre à la hache. Au crayon, on peut venir tracer, en gros, vaguement, en proportion, en fait, la taille d'une cuillère avec un tiers, deux tiers. Et après, on va commencer à dégrossir, en fait, au max, à la hachette. avant ensuite de venir tailler au couteau. Alors, pas mal de types de bois différents. Celui-ci, en l'occurrence, c'est du tilleul. De préférence pour la taille du bois, type cuillère, le tour, etc. C'est pas mal de travailler avec du bois vert et du bois qui a des fibres moins ligneuses. Donc en fait, c'est pour ça que les tilleuls, les fruitiers, pommiers, poiriers, etc., cerisiers, le bouleau aussi, ça marche pas mal. Le hêtre aussi, le hêtre assez dur, mais on avait du vert et du sec, mais le hêtre est quand même plus dur. Mais c'est surtout éviter les épineux, enfin en fait les sapins, les machins, c'est très fibreux et donc la fibre a tendance à s'arracher plutôt que de se couper.
Nous sommes ici sur l'île en mouvement. Ici, il y avait des usines et c'était une friche industrielle jusqu'en 1977. On ferme les derniers. Il y avait des activités de métallurgie. Donc tout cela a été arasé au profit d'un retour à la nature, mais un retour artificiel à la nature. On quitte l'industrie telle qu'on l'a vécue du 19e, des débuts 20e siècle, pour entrer dans une ère plus digitalisée, plus apaisée peut-être, et de biodiversité. Donc, retour à la nature, oui, mais semi-artificialisée. Hein, c'est une réflexion qu'on aura tout au long. Est-ce que la nature reprend ses droits vraiment ici ? Ce deuxième arrêt, on parlait de trajectoire dans le temps, hein. Vous l'avez par la vue, vous avez le château de Montbéliard, donc, où les ducs de Wurtemberg, les princes de Wurtemberg régnaient, et puis vous avez, eh bien, derrière les arbres, un des plus grands sites à l'époque industrielle de France. Cette usine, ce lieu, a vraiment formaté la vie socio-économique, la vie sociale, donc cité ouvrière. Il y avait, à un moment donné, on a attiré la population maghrébine, on a créé des ksours. Un des ksours, c'est le village, pour héberger ces travailleurs qui arrivaient du Maghreb. Il y a des cités, la cité du Congo, la cité du Tonkin, etc., etc. Bon, voilà. Tout ça, ça formate le paysage. Et on va jusqu'à créer, eh bien, ce qu'on appelle les ravis. L'entreprise s'est préoccupée de nourrir ses ouvriers. La guerre, le front n'est pas très loin. L'usine se prend en main, érige ses propres magasins d'alimentation. Et donc, le ravitaillement va devenir progressivement les ravis. Voilà, donc il y avait vraiment une emprise totale, économique, mais aussi sociale, sur ce paysage. J'ai envie de vous parler un petit peu des rapports de l'usine à la nature, à l'environnement. On est arrivé jusque dans les années 2000, où pour la première fois, c'est le premier site industriel en France qui a obtenu un label environnemental, une norme ISO. Pour vous donner une idée des efforts qui ont été faits, dans les années 70, la consommation du site de Sochaux, c'était pour chaque véhicule 24 mètres cubes d'eau. Au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à moins de 3 mètres cubes d'eau par véhicule. Pour vous donner les efforts, hein, ça pollue encore, mais pour vous donner les efforts. Je vais vous donner les chiffres pour les déchets. En l'an 2000, chaque véhicule, c'était 28 kilos de déchets non recyclables. Aujourd'hui, on est à moins de 5 kilos par véhicule. C'est-à-dire qu'on va avoir une politique de recyclage des bois, des plastiques, etc., etc., de tri, bien évidemment. On veut se créer une image, toutes les industries veulent se verdir, et donc ça a été un élément très important pour ancrer un petit peu cette image de mobilité propre sur le site ici de Sochaux. Alors, dernière halte, cette usine est en capacité de produire plus qu'elle ne faisait il y a 30 ans, sur moins de surface, avec moins de main-d'œuvre. Et jusqu'où on va aller ? On est en train de détruire aujourd'hui des ateliers qui avaient été construits à la fin des années 1990 pour gagner de la surface. On va compresser les coûts, on va compresser l'emprise foncière, on va compresser les espaces. Ce territoire est en situation de fragilité. Voilà, le retour à la nature, on est dans cette nature, mais en même temps, le patrimoine est en train de s'étioler. Alors, à travers les arbres, on voyait encore la marque Peugeot. Aujourd'hui, c'est Stellantis, groupe mondialisé. Voilà. Il y a quelque part un déracinement de ce territoire. Moi, je suis très inquiet sur la suite, on va dire, la vitalité économique. Hein, on peut se rassurer sur le retour à la nature, sur la décarbonation, sur la transition. Mais économiquement, voilà, ce territoire est très fragile.
Événement organisé dans le cadre des rencontres Art et Territoire de 16000, réseau art contemporain Bourgogne-Franche-Comté et estampillé par Pays d'agglomération de Montbéliard, capitale française de la culture 2024.